Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, l'interview du jour sur RDIWA, émission que vous pouvez écouter en podcast sur notre site internet www.rdwa.fr ou alors sur les ondes FM en 107.5. Et aujourd'hui, nous recevons Delphine qui représente les Amanins, c'est ça ?
Tout à fait, bonjour.
Bonjour. C'est pour nous annoncer un programme qui s'appelle la fête des Amanins, qui se déroulera le 25 juin à Grasnes, pour fêter les 10 ans de l'école du Colibri. Delphine, qu'est-ce que l'école des Colibris ?
Alors, l'école du Colibri, c'est un des trois piliers dans ce projet qui est les Amanins, qui existe depuis 11 ans maintenant, et donc qui est à La Roche-sur-Grasnes. Donc, dans ce lieu, il y a une ferme en polyculture élevage, un centre d'accueil éco-construit, et l'école du Colibri. Donc, c'est aux Amanins, on pratique l'agroécologie, mais surtout, on la diffuse. Et pour pouvoir englober une pratique écologique globale, on intègre également l'apprentissage de la relation et de la coopération. Et donc c'est ce qui fait un petit peu la particularité du projet pédagogique de l'école du Colibri. C'est-à-dire qu'au-delà des apprentissages scolaires, les enfants apprennent à être en paix avec les autres, avec leur environnement et avec eux-mêmes. Voilà, donc c'est une école qui accueille 38 élèves du CP au CM2 et qui fête ses 10 ans cette année.
Quelle est cette démarche de l'école du Colibri ? Pourquoi cette école ?
En fait, quand le projet des Amanins est né il y a 11 ans, de la rencontre de Pierre Rabhi et Michel Valentin, Isabelle Peloux, qui était la compagne de Michel Valentin, réfléchissait également au projet. Et la double question qui avait motivé la création de ce centre, c'était de tenter de répondre à la double question « Quelle planète laisserons-nous aux enfants ?» mais aussi « Quels enfants laisserons-nous à la planète ?» Et dans l'intention du projet, au démarrage, l'idée était de plutôt proposer un accueil des enfants en classe découverte. Et très rapidement, Isabelle, qui était enseignante en école primaire, a dit « Mais il y aurait une école ici, ça serait vraiment, vraiment super. » Enfin, ça serait vraiment très intéressant, puisque ça nous permettrait à la fois d'ancrer les apprentissages des enfants dans du concret, dans du quotidien, dans la vie d'un lieu, d'une ferme, en lien avec pas mal de professionnels, et d'englober vraiment une écologie globale à travers l'écologie relationnelle qui pourrait être transmise aux enfants. Puisque ça part d'un constat que la coopération, c'est vraiment pas un état de fait, ça s'apprend. Du coup, aux enfants de l'école, on leur apprend la coopération. Ils ont bien de la chance.
Alors, le Colibri, c'est aussi une association qui regroupe d'autres choses ? Par ailleurs.
Donc le mouvement Colibri, oui, c'est une association. En fait, Pierre Rabhi, qui est cofondateur des Amanins, est à l'initiative de pas mal de projets en France, mais pas que, aussi beaucoup en Afrique. Et donc dans ces structures qui seront présentes pendant cette fête le 25 juin, il y a le mouvement Colibri, qui est un mouvement dont le siège est à Paris, mais qui a pour raison d'être de inspirer, soutenir et relier tous ceux qui veulent participer à une société plus humaine, plus écologique. Et donc il y a pas mal de groupes locaux, Colibri, qui existent, notamment il y en a un dans la vallée de la Drôme, certainement dans le Diois, mais pas à ma connaissance.
Et alors cette école du Colibri, quand l'idée a émergé il y a 11 ans, qu'est-ce qui s'est passé localement ? Il y a eu un intérêt local des collectivités par exemple ? Est-ce qu'il y a eu une aide ? Ou alors c'est une école qui s'est montée petit à petit avec les moyens propres ?
Alors l'école s'est montée petit à petit. De toute façon, pour créer une école... Au démarrage, il faut 5 ans avant de pouvoir passer sous contrat d'éducation nationale. Donc il faut trouver un moyen de s'autofinancer. Donc la plupart des écoles hors contrat sont les parents qui mettent la main à la poche. Et donc là, dans la création du projet des Amanins, on voulait pas que ce soit une école où les parents soient des clients et où l'aspect financier représente un frein à l'avenue des enfants. Puisque vraiment l'important c'était de pouvoir accueillir des enfants, et notamment des enfants en difficulté, pour pouvoir les accompagner et leur transmettre toutes ces pratiques et toute cette pédagogie qui est proposée. Et donc l'école a démarré avec au début une quinzaine d'élèves, puis 20, puis 25, puis 30, et puis actuellement 38. Et les frais de scolarité sont toujours restés inchangés. Donc c'est vraiment la globalité du montage économique du projet des Amanins qui fait que cette école arrive à être autonome, relativement autonome financièrement, où les frais de scolarité restent bas et accessibles à tous.
Et bien sûr, toujours dans le cadre de l'académie, je suppose, par rapport aux corps enseignants, il y a des impératifs au niveau des corps enseignants dans cette école ?
Donc on est une école sous contrat d'éducation nationale, donc ce qui veut dire qu'il y a un poste, donc un enseignant qui est salarié de l'éducation nationale. Donc pour le coup c'est Isabelle Peloux hein, qui elle était en dispo depuis la création du projet. Voilà, mais si un jour elle arrêtait, ben, ça serait un autre enseignant de l'éducation nationale qui viendrait prendre le poste. Voilà. Là, actuellement on est en train de faire une démarche pour obtenir un deuxième poste, puisqu'on a quand même 38 élèves, c'est du boulot. Même si les enfants sont accompagnés par pas mal d'autres adultes, il y a 5 adultes constamment en classe, il n'y a qu'un poste de l'éducation nationale, et du coup c'est vrai que c'est beaucoup de travail pour Isabelle. Voilà, donc à terme on espère avoir 2 postes, ce qui nous permettra de continuer à faire un accueil particulier aux enfants en difficulté, puisqu'on a vraiment à cœur de pouvoir accompagner ces enfants qui ont du mal à trouver une place dans l'enseignement classique. Voilà, parce que là on fait vraiment le pari de les intégrer constamment dans l'école, dans la classe.
Tout à l'heure, vous citiez les niveaux, c'est-à-dire du cours préparatoire jusqu'au CM2. Et une fois ce cycle terminé, les élèves retournent certainement dans le cycle classique. Comment se passe la transition ? Est-ce que vous en avez des retours ?
Alors oui, on a des retours. Évidemment, on suit les élèves lorsqu'ils vont au collège. Déjà, ils sont bien préparés puisqu'ils acquièrent pas mal d'autonomie, une capacité à prendre du recul dans la façon dont ils vont vivre les choses. Et donc la transition au collège se fait très bien. On a même souvent surpris des résultats en fait, scolaires des enfants. Enfin, agréablement surpris en tout cas. Voilà, donc ça se passe très bien. Ils partent en collège public ou privé, ça dépend du choix des parents et puis des orientations. Voilà, il y en a qui sont, il me semble, dans le DIWA, voilà, pour des options sport nature notamment. Et non, mais ça se passe vraiment bien. Et voilà, maintenant on a certains élèves qui sont en études supérieures et voilà, qui deviennent des beaux adultes qui ont, je pense, en eux quelque chose d'ancré de profond en termes d'apprentissage du faire ensemble et du vivre ensemble.
Est-ce que vous avez des demandes qui sont au-delà de vos capacités ?
Par rapport à l'école, oui, c'est clair. Chaque année, on refuse plein d'inscriptions. Puisque ça reste une petite école, hein, il y a 38 places, donc chaque année c'est au moins, je dirais, 60 inscriptions. Donc forcément, il y a des déceptions, mais c'est comme ça. L'idée, c'est vraiment de pouvoir essaimer, c'est-à-dire que cette expérience qui est mise en œuvre aux Amanins, elle puisse faire des petits, et qu'il y ait d'autres écoles qui soient créées en dehors. Et donc chaque année, Isabelle Peloux forme 2 futurs enseignants dans le cadre du service civique. Donc c'est des jeunes qui ont un niveau, qui ont fini une licence, qui veulent devenir enseignants, donc qui vont préparer le master d'enseignement. Mais avant ça, ils font une année d'immersion à l'école. Et donc on fait le pari qu'à la sortie de la fac, et une fois qu'ils auront obtenu le concours, et ben ils mettront en œuvre la pédagogie qui est proposée à l'école. Et puis on forme aussi beaucoup d'enseignants qui sont en poste, qui sont curieux, qui sont intéressés par la démarche pédagogique et qui viennent dans le cadre de formation qu'on organise tout au long de l'année. Il y a 3 ou 4 sessions par an. Voilà, donc c'est des centaines d'enseignants, de futurs enseignants qui ont été formés depuis 5 ans maintenant. Et il y a déjà pas mal de petits qui sont faits.
C'est une collaboration sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale, donc aussi, cette formation dédiée aux professeurs.
Alors, pas forcément, non. Cette formation, elle a été créée vraiment à partir de l'expérience d'Isabelle Peloux à l'école. Donc, on a un organisme de formation reconnu. Après, il y a pas mal d'enseignants de l'éducation nationale qui viennent se former, mais qui galèrent un petit peu à obtenir les financements. Mais ça, c'est possible, en tout cas.
Ou à titre personnel.
Voilà, à titre personnel, souvent. Après, il y en a quand même de plus en plus maintenant qui arrivent à se faire financer cette formation par l'éducation nationale. Bon, c'est vrai qu'il faut être... Faut s'accrocher, quoi. Mais on travaille là-dessus, justement, pour essayer de faire reconnaître cette formation en interne dans l'éducation nationale. Bon, déjà, on est super fiers, très heureux d'être reconnus comme école sous contrat. Ça, c'est vraiment une très, très belle reconnaissance. Donc, voilà, petit à petit, petit pas par petit pas, on va y arriver.
Et combien, à peu près, d'enfants sont passés, alors, dans votre établissement ?
Eh bien, 10 années scolaires, à peu près une trentaine d'enfants en moyenne, voilà. Ça fait vite un beau nombre d'enfants. Et c'est une belle aventure, vraiment. On est très fiers de pouvoir, cette année, célébrer ça, parler d'éducation, puisque c'est vraiment un levier et un enjeu important dans notre société, parce que Pierre Rabhi le dit souvent, on peut très bien manger bio, limiter ses déplacements, trier ses déchets et exploiter son voisin. Donc le changement de société, il passe d'abord par un changement personnel, un changement humain. Et si l'éducation peut contribuer à ce changement-là, ou en tout cas à semer des graines, eh bien, il faut y aller, quoi. Et donc c'est vraiment mon envie lors de cette journée, le 25 juin, de pouvoir témoigner d'expériences alternatives qui ont lieu, qui existent, et motiver et dynamiser un petit peu, ben voilà, toutes ces nouvelles initiatives qui pourraient émerger.
Les enfants eux-mêmes, donc qui sont passés ou qui sont encore en formation, est-ce qu'ils proposent eux-mêmes leurs services pour aider ceux qui sont encore dans cet établissement?
Alors, il y a beaucoup d'entraide qui se fait, notamment, enfin, mais comme dans beaucoup d'écoles, hein, notamment le tutorat qui est fait en début d'année entre les CM2 et les CP pour l'intégration, la compréhension, toutes les petites choses du quotidien. Voilà, il y a aussi un tutorat qui se fait entre les élèves qui étaient en CM2 qui sont partis en 6e. Ils reviennent leur 6e pour rencontrer les CM2 pour leur expliquer comment ça se passe, la transition au collège, etc. Voilà, et puis il y a une très belle solidarité, une très belle coopération au quotidien dans l'école et dans les relations. Après, ça reste des enfants comme les autres, hein. Des fois, ça se chamaille, mais c'est naturel.
Par rapport au nombre de postes disponibles d'élèves, sur quels critères vous établissez une sélection pour pouvoir pour devoir refuser des inscrits?
Donc, on a 38 places. On pourra difficilement aller au-delà. Si on va au maximum, maximum, ça sera 40. Voilà, donc il y a des priorités qui sont données aux enfants en difficulté, donc qui sont suivis par la MDPH. Ensuite, un autre critère qui est l'équilibre filles-garçons dans l'école. Une priorité qui est donnée aux fratries, c'est-à-dire que s'il y a déjà un enfant de la famille qui est dans l'école, ben forcément son petit frère ou sa petite sœur sera prioritaire pour intégrer l'école. Une priorité qui est donnée également aux enfants de la commune de La Roche-sur-Grane et aux enfants des salariés des Amanins. Voilà. Et ben après, une fois qu'on a utilisé tous ces critères-là, s'il reste de la place parmi tous les inscrits, on tire au sort. Voilà, il n'y a pas de sélection autre. Voilà, puis tous ces critères sont énoncés au moment de l'inscription dans le dossier d'inscription, c'est bien expliqué. Et voilà, et par exemple cette année, enfin pour la rentrée de septembre, il me semble qu'il y a uniquement des frères et sœurs qui intègrent l'école. Voilà, donc il n'y a pas eu de tirage au sort au final.
Donc, il y a les cours, effectivement, qui sont donnés par un professeur reconnu. Et ensuite, autour de ces cours, il y a des activités. Et là, qui intervient pour ces activités?
Donc il y a les enseignants, il y a Isabelle Pelouse, chaque année elle forme 2 jeunes en service civique, ça que je l'ai déjà dit. Voilà, donc c'est l'équipe enseignante qui accompagne les enfants tout au long de la journée. Et lorsqu'il y a des activités en dehors de l'école qui se font, et notamment qui peuvent se faire dans le centre des Amanins, puisque l'école est au cœur du lieu, eh bien là, ce sont les professionnels des Amanins qui prennent le relais et qui partagent leur savoir-faire. Donc c'est par exemple l'éleveur, le cuisinier, le boulanger, le maraîcher, voilà. Donc les enfants sont vraiment au contact de professionnels de métiers différents, très divers et variés, et c'est très enrichissant pour eux.
Par rapport aux activités, donc, surtout que c'est une école qui est dédiée à l'agroécologie, qu'est-ce qui se pratique dans ces ateliers?
Alors, aux Amanins, le lieu a vraiment pour raison d'être, il a été créé pour ça, de pratiquer l'agroécologie. Donc, l'agroécologie, c'est viser, tenter de réconcilier l'agriculture et l'écologie. Donc ça, c'est assez facile. Mais pas que. C'est aussi englober toute la dimension relationnelle qui va avec, la façon de faire ensemble, d'entreprendre également. Et donc, aux Amanins, on met en œuvre, pour cela, au quotidien, 4 autonomies. Sur le lieu, en fait, il y a une ferme en polyculture élevage, qui nous permet de mettre en œuvre une autonomie alimentaire de l'ordre de 90%. Faut imaginer qu'aux Amanins, on sert en moyenne 100 repas par jour, puisque Deuxième pilier, c'est un centre d'accueil et de transmission. Donc sur le lieu, il y a des bâtiments éco-construits, salle de conférence, salle de restaurant, chambre, etc. Réalisés à partir des matériaux disponibles sur le lieu. Donc sa deuxième autonomie, c'est l'autonomie de la construction.
Je voulais juste, par rapport aux repas, ce sont des repas végétariens ou alors
principalement végétariens. Principalement végétariens. Après, il y a un petit peu de viande qui est issue de la régulation de notre troupeau. Voilà, mais on ne produit pas de viande pour produire de la viande sur place, ça serait pas logique. Donc produits laitiers, un tout petit peu de viande, céréales, légumineuses et légumes, et même petits fruits sont produits sur place. Donc c'est vraiment une restauration du jardin à l'assiette, on se régale tous les jours, c'est un vrai bonheur. Donc la deuxième autonomie, c'est l'autonomie de la construction, donc utiliser matériaux disponibles sur place. Donc ça a été utilisé pour réaliser toutes les infrastructures d'accueil. Et la construction de l'école du Colibri également. La troisième autonomie, c'est une autonomie énergétique à travers des panneaux solaires thermiques, une gestion de l'eau, une capacité d'être autonome en termes d'irrigation, une éolienne pour produire l'électricité, bon, qui est actuellement en panne, mais un jour on va la changer. Voilà, c'est aussi une gestion autonome de nos déchets, une valorisation maximum de nos déchets en respectant le cycle du vivant. Donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Sur place, on a une phytoépuration, nos eaux usées, des toilettes sèches, etc. Et la quatrième autonomie, ça c'est un pari assez fou, mais qu'on est assez fiers d'arriver à réaliser, c'est être autonome au niveau économique. Donc c'est-à-dire, grâce à la raison d'être du projet, arriver à financer le fonctionnement de la structure et notamment... les 20 et quelques salaires des personnes qui travaillent au quotidien sur le lieu. Et on a fait un choix fort de société qui est de dire, ici, aux Amanins, on pratique le salaire unique. Donc on est tous payés pareil, quel que soit notre métier. Et notamment, on a 5 paysans agriculteurs qui sont salariés, au même titre que l'ensemble des autres salariés des Amanins. Et pour nous, c'est important ce choix, puisqu'il permet vraiment de ramener une juste valeur au métier de paysan. Et de rémunérer correctement les personnes qui nous nourrissent. Voilà, en gros, très rapidement, les 4 autonomies. Et donc, tout au long de l'année, on transmet cette pratique, cette expérience de 10 ans maintenant, à travers des séjours de vacances tout public, des journées, des conférences. On organise également des classes découvertes, des forums, des stages. On accueille des groupes extérieurs aussi qui viennent faire un séminaire aux Amanins ou une rencontre. Voilà, donc c'est un lieu, vraiment un carrefour d'échanges, de rencontres, des découvertes. Et l'idée, c'est vraiment d'inspirer et d'essaimer un maximum, au local et en national, surtout en national.
Voilà. Et pour ce qui est de l'accueil, c'est du pensionnat, du demi-pensionnat, de l'externat ?
En pension complète, les personnes qui sont accueillies sont en pension complète, puisque tous nos repas sont des repas pédagogiques. Puisque ben voilà, ce qu'on a dans les assiettes, c'est vraiment le fruit de notre travail, du travail de la mise en œuvre de l'autonomie alimentaire, qui est un des principes forts et de base de l'agroécologie, qui permettent de retrouver une souveraineté alimentaire, une autonomie alimentaire. Donc on montre aux Amanins comment c'est possible d'arriver à cette autonomie alimentaire. Et donc ces repas sont pédagogiques, donc les personnes que l'on accueille sont en pension complète.
Est-ce qu'il y a un moment pour l'enfant chez vous où il puisse être seul et vaquer à ce qu'il a envie de faire?
Alors, dans le cadre de l'école, il y a pas mal de choses qui sont proposées aux enfants quand ils ont un petit moment difficile, un moment, quand ils traversent un état émotionnel, on va dire, un peu nuageux. Déjà, ils apprennent à le voir, à le sentir, à le reconnaître. Et ils apprennent à se faire du bien quand ça va pas bien. Donc ils ont à leur disposition des outils où justement ils peuvent choisir ce qui est bon pour eux, enfin de faire quelque chose qui est bon pour eux. Donc par exemple, il y a des mandalas, ils peuvent prendre un jeu, prendre un livre, faire un dessin, etc. Enfin voilà, chaque enfant va faire une activité dont il sait que ça va lui faire du bien. Voilà, il peut aussi regarder quelque chose de beau, contempler la nature, etc. Après, c'est vrai qu'ils ont un rythme scolaire, hein, donc voilà, il y a ça aussi à prendre en compte. Mais c'est vrai qu'un enfant qui traverse une petite période émotionnelle difficile sait, en tout cas, apprend à le gérer et à avoir un petit moment de solitude s'il le souhaite, ouais. Et après, dans le cadre des séjours qu'on organise, où, eh bien là, c'est les parents qui gèrent leurs enfants tout au long de la journée, même s'il y a des activités qui sont proposées, quoi, tout au long de la journée aussi.
Et une dernière question, Delphine. Qu'est-ce qui t'a amené aux Amanins?
Alors, moi, c'est l'éducation qui m'a amené aux Amanins. C'était il y a 8 ans. J'étais à la fac et je m'intéressais au métier de l'éducation. J'avais terminé ma licence et j'avais envie de faire quelque chose dans l'éducation. Instit, éducatrice spécialisée, je savais pas trop. Et ça faisait un moment que j'entendais parler des Amanins. Voilà, moi j'étais à Toulouse, hein, donc j'étais un peu loin de tout ça, mais j'ai pas mal de famille dans la Drôme. Et je me suis dit, ça serait vraiment une chance extraordinaire que de pouvoir venir expérimenter le métier d'instit pour pouvoir préparer le concours sur le terrain. Et donc je suis arrivée aux Amanins dans le cadre d'un service civique à l'école. Donc pendant un an, j'étais instit à l'école du Colibri, donc j'ai appris ce métier. Et c'était vraiment très très intéressant, très enrichissant. Ça m'a permis de voir que c'était pas un métier pour moi. Et ça, c'était aussi un beau cadeau et un bel apprentissage de la vie. Voilà. Donc j'ai continué aux Amanins dans d'autres postes et d'autres aventures. Mais c'est vrai que je garde une expérience et une sensibilité forte à cette expérience de l'école du Colibri. Je trouve que c'est très beau ce qui se fait et que les enfants ont beaucoup de chance de vivre ce qu'ils vivent à l'école.
C'est cette fête donc des Amanins qui sera remplie, une journée bien remplie avec des conférences, des animations, des stands associatifs, un concert, bal folk. C'est la même chose, concert et bal folk, ou c'est deux choses différentes?
C'est deux choses différentes.
Alors les conférences, on pourra entendre qui alors pour
alors,
ces journées?
Du coup, c'est, on va dire, une journée en plusieurs temps. Déjà, on ouvrait les portes le matin à 9h. Et à 10h, on démarre par une table ronde avec les structures qui sont autour de Pierre Rabhi. En fait, cette fête qu'on organise le 25 juin, c'est une fête qu'on fait chaque année. C'est une fête pour célébrer la charte pour la terre et l'humanisme. Et donc, chaque année, on co-organise ou on invite au moins les structures autour de Pierre Rabhi. Et donc, on organise le matin une table ronde avec le Hameau des Buis, le magazine Kaizen, le mouvement Colibri, l'association de Terre et Humanisme, le monastère de Solan et les Amanins, donc qui sont que des structures qui émanent de Pierre Rabhi ou qui incarnent sa pensée, pour témoigner de leur engagement sociétal et de leurs actions. Donc, ce qui permet au public de redécouvrir ces différentes associations qui ont également des stands pendant toute la journée. Ensuite, après la table ronde, à midi, il y a une pause déjeuner. Donc vous pouvez là vous restaurer. Nous, on propose une restauration du jardin à l'assiette. C'est-à-dire que ce sont le produit de notre ferme qui vous seront proposés en restauration. Et à 14h, on démarre une conférence sur le thème de l'éducation, puisque c'est le thème de cette année à travers la fête des 10 ans de l'école. Et donc pour cette conférence, on a invité donc évidemment Pierre Rabhi qui sera présent, qui va témoigner en fait d'un changement de société qui passe d'abord par un changement humain et donc l'éducation comme un levier important dans ce changement humain. Isabelle Peloux qui va témoigner de l'expérience de l'école du Colibri et qui appuiera notamment sur l'accompagnement des enfants en difficulté qui est fait. Antonella Verdiani qui est fondatrice du Printemps de l'éducation. Ceux qui s'intéressent un petit peu à l'éducation, vous en avez certainement entendu parler. Donc c'est un mouvement citoyen qui réunit des associations, des institutions et des individus qui militent pour un changement de l'éducation et de l'école centré sur le bien-être et l'épanouissement des enfants et des enseignants également. Voilà, donc c'est une chercheuse qui a développé l'éducation à la joie, qui a siégé à l'UNESCO, quelqu'un de vraiment très, très intéressant à découvrir. Et enfin, Michel Denis, qui est un enseignant à la retraite et qui préside une école de production. Donc c'est les écoles de production, il y en a 11 en France, dont 8 en Rhône-Alpes. Et c'est vraiment des écoles qui proposent une alternative au dispositif existant scolaire autour de l'apprentissage. Les enfants, enfin, ce sont des jeunes qui souvent sont en décrochage scolaire, qui vont être amenés à faire pour apprendre. C'est-à-dire que l'école, c'est comme une entreprise. Ils répondent à des commandes de clients. Et il y a les deux tiers de leur temps scolaire qui est dédié à de la pratique. Et c'est vraiment une alternative et une solution pour des enfants qui sont en blocage et en rupture scolaire, pour leur permettre de trouver un cadre qui va les captiver et qui va les intéresser pour leurs apprentissages. Donc voilà, vraiment, ces quatre personnes-là, on les a invitées pour témoigner d'une éducation qui est alternative, mais qui s'applique à tous. On ne va pas parler que d'une éducation alternative qui serait destinée qu'aux parents qui ont un bon portefeuille et qui peuvent mettre leurs enfants dans les écoles privées alternatives. Non, on s'adresse à tout le monde et à tous les enfants, quelles que soient leurs difficultés. Et donc voilà, donc on pourra témoigner de pas mal d'alternatives existantes. Et il y aura notamment un stand dédié à énormément de courants pédagogiques et écoles alternatives qui existent en France et qui se regroupent sous le printemps de l'éducation. Voilà, donc ça va être une belle après-midi. Il y aura une petite pause avec un conte qui sera... Donc là, on a invité une compagnie qui s'appelle la Compagnie des Tubercules. Drôle de nom, qui va nous proposer un conte qui parle d'éducation, qui est tout public. Et en même temps, pour ceux qui ont envie d'aller se mettre à l'intérieur ou de faire autre chose qu'écouter le conte, on va proposer des projections de films qui ont été réalisés par Anne Barthes aux Amanins. Donc ce qui compte et quels enfants laisserons-nous à la planète. Et à l'issue de ce temps de projection et de conte, il y aura une pause pour le dîner et après on démarre la soirée festive, toujours avec la Compagnie des Tubercules. Donc, qui va proposer à travers le groupe Babel Bouèche Madame un concert haut en couleur, très festif, très joyeux, avec un univers vraiment particulier. Je vous invite vraiment à découvrir ce groupe, à aller écouter. Tous leurs albums sont en libre écoute sur leur site internet, Babel Bouèche Madame. C'est une musique très festive, avec beaucoup d'instruments. Ils seront 8 sur scène. Accordéon, guitare, contrebasse, percussion, saxo, trompette, clarinette, etc. Donc ça va être vraiment, vraiment chouette, ça va nous permettre de nous échauffer pour ensuite le bal folk accompagné par les patates son système, donc toujours de la Compagnie des Tubercules. jusqu'au bout de la nuit, 2h du matin. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Même ceux qui ne savent pas danser, vous pourrez participer au bal folk. Et donc tout ça sous chapiteau, donc même s'il pleut, c'est maintenu évidemment. Et donc dans une bonne ambiance festive, voilà, ce beau programme de la journée.
Pour la fête des Amanins, je vois en sous-titre sur le flyer « Quels enfants laisserons-nous à la planète ?» Cette question, est-ce Pierre Rabhi qui la pose ?
Bah, il la pose, mais pas que lui. On se la pose, et c'est pour ça qu'on a choisi ce titre-là. Hein. Le projet des Amanins, vraiment, s'ancre autour de tenter de répondre à cette double question. Quelle planète laisseront nos enfants, mais aussi quels enfants laisseront-nous à la planète ? Et beaucoup de personnes se posent cette question, beaucoup de personnes travaillent et tentent d'y répondre, et travaillent sur d'autres moyens d'éduquer, de trouver des alternatives à l'éducation qu'on retrouve principalement, majoritairement dans les établissements. Donc on n'est pas les seuls à travailler là-dessus, et notamment lors de cette journée, vous verrez qu'il y a beaucoup de structures et beaucoup d'écoles qui existent. Quelques infos pratiques. Les enfants sont évidemment les bienvenus pendant cette journée, même si ça peut faire un peu long, une journée de conférence, mais on a prévu nos amis d'Archijeux de Créer qui amènent leur grand jeu en bois. Il y a une maquilleuse qui sera présente également pour maquiller les enfants. Le conte sera adapté, puis après ils pourront danser pendant le concert. Toute la journée, vous pouvez vous restaurer. Il y a une buvette bio sur place. C'est une journée qui est payante, puisque voilà, c'est pour permettre d'équilibrer le budget de l'association qui organise cette fête. Il y a quand même pas mal d'intervenants, les concerts, etc. Donc c'est une journée, si vous prenez votre billet en prévente, qui est à 13€, donc de 9h du matin jusqu'à 2h du matin le lendemain. Et puis si vous n'avez pas le temps de le faire, vous pouvez toujours prendre un billet sur place qui sera à 15€. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous invite à covoiturer. Et à venir nombreux, parce que ça va être une belle journée et on sera très heureux de vous recevoir. Voilà.
Je voulais venir aussi, pas pour les préventes ou réserver. Comment faites-vous pour les auditeurs qui voudraient y être ? Il y a une adresse ou un mail, un téléphone ?
Alors, vous allez directement sur notre site internet www.lesamanins.com et vous retrouverez en page d'accueil et dans notre rubrique programme la fête des Amanins avec le lien vers la billetterie festique. Il y a également sur Facebook aussi un événement qui a été créé, donc vous pouvez retrouver aussi à travers la page Facebook des Amanins les liens pour cette prévente. Et puis si jamais vraiment vous ne trouvez pas, vous pouvez nous appeler au 04 75 43 75 05.
Eh bien Delphine, merci d'être venue à notre radio pour nous annoncer cet événement.
Avec grand plaisir, merci à vous.
Et puis longue vie à Colibri. Hein.
Merci.
Allez,
à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Interview.
Okay, the bell.